France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme du 5-6, pour bien démarrer la matinée, la mer et les chiffres font bon ménage. Mais oui, la preuve avec une économiste spécialiste de l'océan rencontre dans les chroniques littorales. La mer encore et la victoire de Charlie Dalin dans le Vendée Globe éclaboussé par l'humour de Charline Van Honecker, ce sera à 5h25. On explorera notre côté obscur dans la playlist juste après le journal de 5h30. 50 ans et toujours attaqué, le droit à l'avortement reste la cible des opposants idéologiques en France. Témoignage à venir dans le premier zoom de la matinée. À 5h45, notre invité déjà debout et garde naturaliste, il nous invite à nous lever avec les grues, vous verrez. Et puis elle pense la transcendance, la métaphysique et aussi notre quotidien. La philosophie s'intéresse aux déchets dans Café Philo. Et nous aussi, vous avez le programme. Je vous accompagne avec plaisir jusqu'à 9h, mais pour l'instant, il est 5h01.
France Inter.
Et le premier journal de la matinée est présenté par Mathilde Bouquerel. Bonjour Mathilde.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Le Proche-Orient retient son souffle ce matin.
Alors qu'un accord a été trouvé sur la libération de 33 otages détenus par le Hamas, une trêve doit donc être conclue dans la bande de Gaza. Elle prendra effet dimanche. Mais avant cela, le gouvernement de Benjamin Netanyahou va se réunir dans la journée pour voter cet accord, en attendant les frappes continues sur l'enclave palestinienne. Le Proche-Orient, où Emmanuel Macron est en visite aujourd'hui, sur l'autre front de cette guerre, le Liban. Il y a une semaine, le pays s'est choisi un nouveau président, Joseph Aoun, après 2 ans de vacances du pouvoir. Avec lui, Emmanuel Macron discutera donc de la consolidation du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et du redressement de l'économie libanaise, Christian Chéneau.
C'est sans doute l'un des dossiers diplomatiques qui a le plus accaparé Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Avec une conférence de soutien économique à Paris en 2018, 2 visites dans la foulée d'explosion du port à Beyrouth à l'été 2020 et en octobre dernier une réunion internationale sur l'aide humanitaire et le soutien à l'armée. Malgré ses efforts, le président français a échoué à refonder un nouveau Liban, selon son expression, mais aujourd'hui la donne a changé. La France, aux côtés des États-Unis, supervise le cessez-le-feu dans le sud du pays, mais surtout un nouvel horizon politique s'est ouvert avec l'élection du président Joseph Aoun et la nomination du Premier ministre Nawaf Salam, 2 personnalités soutenues par Paris. À l'Élysée, on indique que la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth vise à marquer l'engagement sans faille de la France à la souveraineté et à l'unité du Liban, avec un Hezbollah considérablement affaibli, selon les mots d'un diplomate. C'est l'occasion rêvée pour Paris de revenir en force au Liban pour soutenir l'agenda de réforme et de restauration de l'État du nouveau président, Joseph Aoun.
Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est présent lui aussi au Liban aujourd'hui pour une visite de soutien à la démocratie dans le pays. La Chine annonce sa plus faible croissance depuis 30 ans, 5% seulement en 2024. Pékin reconnaît faire face à des difficultés. Le pays traverse une crise de l'immobilier, alors que sa consommation intérieure ralentit. La population chinoise diminue également. Elle était de 1,408 milliard d'habitants à la fin de l'année 2024, contre 1,410 milliard en 2023. Les habitants de Los Angeles aux États-Unis vont devoir attendre encore un peu, une semaine de plus, avant de pouvoir rentrer chez eux. Après les incendies monstres qui ont dévasté la mégalopole, plus de 16 000 hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Et c'est encore trop dangereux pour les habitants, selon les autorités, qui craignent des glissements de terrain et l'exposition à des substances toxiques.
En France, François Bayrou lance son conclave aujourd'hui.
Une séquence de concertation autour de la réforme des retraites, dont la gauche demande le retrait. Première réunion à 11h ce matin pour les partenaires sociaux. Mais pour trouver des solutions, encore faut-il se mettre d'accord sur les chiffres, Agnès Soubiran.
C'est un serpent de mer du débat sur les retraites. Le chiffrage et les projections. Syndicats, comités d'orientation sur les retraites, gouvernement, chacun met en avant ses chiffres. Entre 15 et 55 milliards d'euros de déficit. Alors pour couper court aux polémiques, la Cour des comptes a été saisie.
Nous sommes vraiment indépendants. Nous coopérons avec le gouvernement et le Parlement. Nous ne sommes aux ordres ni du gouvernement ni du Parlement.
Et c'est Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui conduira cette mission flash, qui devrait durer non pas 2, mais plusieurs semaines.
Nous essaierons d'établir la vérité des chiffres, objective, pour faire en sorte que ce soit aussi un socle pour la discussion des partenaires sociaux.
Les chiffres, il faut s'en affranchir, estime de son côté l'économiste Patrick Appert de l'Institut des politiques publiques, et définir d'abord des objectifs en se posant les bonnes questions.
Quel niveau de retraite on veut? Quelles ressources on est prêt à y mettre? À quel âge on part à la retraite? À partir de là, on définit comment on le répartit différemment entre les assurés. C'est-à-dire qu'on commence à parler de redistribution et d'équité. Et ensuite, une fois qu'on a défini ce qu'on veut de façon voilà concrète, on voit quelles mesures techniques sont les plus à même d'y arriver.
Dernière interrogation soulevée hier soir par les syndicats, le format de ce conclave qui pourrait être rediscuté.
Agnès Soubiran du service économie de France Inter. Le gouvernement de François Bayrou qui a présenté son projet de budget pour 2025 devant le Sénat hier avec 30 milliards d'euros d'économies en tout pour ramener le déficit à 5,4% du PIB. Des coupes donc sur divers postes de dépenses, notamment l'aide publique au développement, le plan France 2030 dédié à soutenir l'innovation dans des secteurs comme la santé, l'espace ou la recherche, mais aussi des coupes dans le budget des sports, un amendement de dernière minute pour retirer encore 34 millions d'euros à ce budget des sports a été retoqué par les sénateurs hier soir. La Fondation des femmes demande la réhabilitation des condamnés pour l'avortement. L'association publie une tribune dans Libération aujourd'hui. Il s'agit de personnes condamnées avant la loi Veil de l'égalisation de l'IVG, un texte dont on célèbre les 50 ans ce vendredi. Des femmes qui avaient avorté ou des personnes qui les avaient aidées ont été condamnées. Leur réhabilitation est un devoir de mémoire nécessaire, selon la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer.
5h06 sur France Inter, il était connu pour son cinéma aussi déroutant que poétique.
Qu'il fallait ressentir plutôt qu'essayer de comprendre. David Lynch a succombé à une grave maladie pulmonaire hier soir à 78 ans. Il nous laisse des classiques comme Elephant Man, Mulholland Drive, mais aussi la série culte Twin Peaks. David Lynch, c'était avant tout un maître de l'étrange, Alexis de Meyer.
Qui mieux que lui a su filmer les rêves et les cauchemars, la banalité du quotidien et les loges occultes, les forces du mal et les monstres innocents? En signant l'une des séries les plus cultes de l'histoire, Twin Peaks, David Lynch fait vivre aux téléspectateurs des années 90 une expérience aussi glaçante qu'inédite. Souvent aux frontières de l'absurde et même de la parodie, les œuvres lynchiennes ont pour point commun d'être attirées par les marges. Son chef-d'œuvre Mulholland Drive nous offre ainsi une vision onirique de l'Amérique, bien éloignée des standards hollywoodiens.
Mais on aurait tort néanmoins de résumer sa filmographie à cette dimension.
En seulement 10 films, Lynch prouve qu'il maîtrise tous les compartiments du jeu, de l'épouvante avec Elephant Man à la SF avec Dune, du road movie Sailor et Lula au film noir Blue Velvet en passant par le cinéma expérimental d'Inland Empire. Lynch est un grand inventeur de formes, soignant la composition de ses plans autant que sa bande-son. Dandy lunaire, youtubeur à ses heures perdues, Lynch ne rechigne pas à passer devant la caméra. Il est l'impayable agent Gordon Cole de Twin Peaks et Spielberg le déguise en John Ford dans The Fabelmans. Et tout récemment, ce cinéphile très francophile a illustré le scénario commenté d'Anatomie d'une chute.
Alexis Demeyer, spécialiste cinéma de France Inter. Sébastien Simon arrive troisième du Vendée des Globes. Il a franchi la ligne d'arrivée cette nuit à 1h27 du matin. Il aura donc terminé ce tour du monde à la voile en solitaire au bout de 67 jours. Le premier Charlie Dalin l'a bouclé en un temps record, 65 jours. Son dauphin, Johan Richomme, est arrivé moins de 24 heures après lui.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Il fait encore froid ce matin, Sébastien Léas.
Les températures minimales sont de nouveau négatives sur la plupart des régions, descendant entre moins 6 et 0 degrés. Le ciel sera encore bien partagé aujourd'hui. En montagne, autour de la Méditerranée et de la Vendée à la Gironde jusqu'au midi toulousain et à l'Auvergne, le soleil brillera généreusement dès ce matin. En Corse, le ciel deviendra progressivement plus changeant, mais les éclaircies seront encore nettes. Quelques nuages traîneront aussi sur le Roussillon ce matin. Entre le Gers et les Landes, sur la Bretagne et entre la Loire-Atlantique et le Cotentin, il faudra attendre la dissipation des grisailles matinales pour profiter d'un temps ensoleillé. Le ciel va aussi se dégager le long des frontières nord, mais sur le reste du pays, les nuages bas resteront imposants quasiment toute la journée.
Sébastien Léas de Météo France, 5h09 à suivre sur Inter. Quiconque commande à la mer commande le commerce, quiconque commande le commerce commande le monde. On parle mer et économie dans les chroniques littorales. La chronique d'où ça sort s'attaque à l'arabisogynie, cette double discrimination qui frappe les femmes maghrébines. Et puis, si vous avez été charmé par l'arrivée de Charlie Dalin au petit matin, il y a 3 jours, dans le Vendée Globe. Charline Vanhoenacker explose les faits et vous en dévoile les dessous. C'est à 5h25. Mais juste avant de prendre le large, de la douceur pour sortir du lit, voici l'artiste anglaise Niloufer Yanya. Elle chante « Made out of memory ». Memory de Niloufer Yanya, tiré de son dernier album My Method Actor, sorti l'année dernière. Il est 5h13 sur France Inter. Chaque vendredi, on retrouve la chronique consacrée au monde marin. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin, dans votre chronique littorale, vous recevez une économiste de la mer.
En la personne de Claire Joly, Marion. Claire Joly, bonjour.
Bonjour José-Emmanuel.
Claire Joly est économiste, elle est en charge du programme d'économie de la mer à l'OCDE et c'est aussi une navigatrice. Claire Joly, qu'est-ce que ça veut dire être économiste et s'occuper de ce programme économique de l'OCDE? Vous nous rappelez ce que c'est que l'OCDE?
Alors l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est chargée de fournir non seulement des données statistiques pour supporter les gouvernements qui sont membres de l'OCDE, mais aussi de donner des conseils aux gouvernants. Et on travaille sur toutes les questions qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à la croissance économique.
Combien de gouvernements, en gros, dans l'OCDE?
Dans l'OCDE, nous avons 38 pays membres, plus d'une centaine de partenariats avec d'autres.
Vous êtes la femme qui compte, alors, pour la mer et l'océan à l'OCDE.
L'OCDE s'occupe beaucoup de questions liées à l'océan, parce que l'océan gagne en importance sur les agendas politiques au niveau mondial. Bien, on compte beaucoup, justement, lorsqu'on regarde l'océan, parce que l'océan est souvent vu comme une frontière économique toute nouvelle, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Depuis toujours, on a utilisé l'océan pour pouvoir en tirer des bénéfices économiques. Actuellement...
Et depuis très longtemps. Hein,
depuis très longtemps.
Bartholomé Dias, Magellan...
Et même nos collègues anglais, n'est-ce pas, avec Sir Walter Raleigh qui disait « Quiconque commande à la mer commande le commerce, quiconque commande le commerce du monde commande les richesses du monde, et par conséquent le monde lui-même. » Et exactement. Aujourd'hui, l'océan est un domaine clé, stratégique, économique, qui attise, je dirais, beaucoup d'appétit. Les dernières données que nous avons sur l'océan, et qui seront publiées formellement le 31 mars 2025, lors d'un événement qui aura lieu pas très loin d'ici, au Musée National de la Marine, montrent que l'océan représente à peu près 3,4% de la richesse mondiale. Quand on réfléchit, cela représente en fait la cinquième puissance économique, si on compare, par exemple, aux États-Unis et à la Chine.
Il faut bien comprendre une chose, Claire Joly, la cinquième puissance mondiale par rapport à ce que vous nous dites, c'est donc l'océan.
En termes de valeur ajoutée, c'est absolument incroyable de voir, je dirais, cette importance de l'océan dans notre économie mondiale.
Et justement, concernant votre partie d'économie de la mer à l'OCDE, on parle beaucoup de pollution, bien sûr la pollution plastique.
En fait, l'un des grands défis qu'on voit pour la mer, évidemment, ce sont tous les problèmes environnementaux qui sont en train de grandir. Et comme on va vers une véritable industrialisation de la mer, quelque part, on voit qu'il y a énormément d'activités avec beaucoup de déchets plastiques qui se retrouvent en mer. Donc non seulement la pollution actuelle impacte la mer, impacte la biodiversité, mais aussi à cause de gros dangers pour la navigation. Nous avons sorti il y a peu de temps un rapport pour regarder l'évolution possible du plastique à 2040, plus 70% dans la production du plastique si on ne fait rien, avec plus 50% de pollution vers l'océan si on ne fait rien. Donc la question du traité actuel sera très importante.
Oui, alors le traité dont vous parlez, Claire Joly, c'est le traité sur la pollution plastique. Il en sera question justement en juin prochain à Nice, à l'UNOC, c'est la conférence des Nations Unies sur l'océan. Mais vous, Claire Joly, tout à l'heure je l'ai dit, vous naviguez, vous êtes une navigatrice avec une spécialité, vous naviguez sur les CDA, c'est-à-dire ceux des autres.
Étant basée à Paris pour mes activités, je préfère effectivement avoir de bonnes relations avec les marins qui, eux, ont des bateaux pour pouvoir aller naviguer.
Rendez-vous donc en juin à l'UNOC, les Nations Unies.
Absolument, où l'OCDE sera partie prenante pour fournir encore une fois des statistiques, des données et quelques conseils pour pouvoir avoir une meilleure gouvernance de l'océan.
Merci à vous Claire Joly, Madame Économie de la mer à l'OCDE, un site internet ocde.org et puis l'OCDE et l'océan, c'est ocde.org/océan. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque, il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin, elles sont largement consacrées à Gaza et à cet accord pas encore validé par Israël, ce cessez-le-feu qui mettrait les frappes en suspens en échange de la libération d'otages détenus par le Hamas. Un accord si fragile, c'est le titre lucide de La Croix qui nous rappelle que ce cessez-le-feu devrait rentrer en vigueur dimanche, mais la photo qui accompagne ce titre montre des enfants de Beit Jabalia, visage triste ou blasé devant leurs immeubles effondrés. Illustration donc de la fragilité en effet de cet accord. Plus neutre, Le Figaro nous décrit Israël et Gaza dans l'attente d'un cessez-le-feu. Image d'un soldat israélien, l'arme baissée. Le quotidien explique entre désaccord avec le Hamas et tension dans sa coalition, le premier ministre israélien maintient le suspense sur la mise en œuvre de la trêve. Alors que famille d'otages et parrains internationaux s'impatientent, c'est le terme employé. L'humanité, elle, montre la joie des survivants de Gaza. Celui-ci notamment les bras en l'air, keffiyeh à la main. Les habitants pensent enfin à l'avenir, raconte le quotidien communiste. Libération, de son côté, promet de dévoiler les coulisses de cet accord. Image en gros plan de Donald Trump, président élu des États-Unis face à son prédécesseur, Joe Biden. Malgré leur désaccord, ils auraient travaillé ensemble à la négociation du cessez-le-feu. Les coulisses, c'est aussi ce que promet le Parisien. Donald Trump a été déterminant, si on en croit le journal, qui consacre une autre partie de sa une au Premier ministre français François Bayrou, qui échappe à sa première motion de censure. Budget, la voix se dégage pour Bayrou, titre aussi les Échos. Les députés socialistes n'ont pas en effet voté la censure. Ils ont obtenu, selon le journal, de nombreuses concessions estimées à 3 milliards d'euros. Les Échos estiment aussi que le PS acte son divorce avec le reste de la gauche. Les Échos magazine qui nous dédicacent leur une, oui à nous Radio France, avec un bouquet de micro-multicolores.
Color, France Info, ici, France Culture, FIP et bien sûr France Inter. Radioscopie d'un triomphe, s'exclame le magazine. 50 ans et des records d'audience. On nous promet une plongée dans les couloirs de la Maison Ronde et au risque de s'y perdre, je vous y invite. À 5h19, pas toujours facile d'être femme et maghrébine puisqu'on peut subir une double discrimination, sexisme et racisme. Mathieu Noël a zoom-zoomé hier sur le sujet avec son équipe et Cyril Lacarrière nous explique d'où ça sort l'arabisogynie.
Découpons un peu. D'un côté, il y a Arabie qui renvoie à tout ce qui touche au monde arabe, à sa culture. Et de l'autre, il y a zoginie, misogynie, qui signifie la haine ou le mépris des femmes. Donc, en associant les mots, c'est facile, l'arabisogynie, une forme de misogynie spécifique aux femmes arabes. Je fais une parenthèse. Selon certains, cette arabisogynie ne concernerait pas que les femmes, mais tout ce qui se rapporte au monde arabe. Son histoire, sa religion et ses courants, ses traditions, voire même la politique des pays arabes. Fin de la parenthèse, je laisserai notre invitée nous dire ce qu'elle pense de cette vision plus large au fond du terme qu'elle a inventé. Car oui, d'où ça sort arabisogynie ? Eh bien de vous, Nesrine Slaoui. C'est un néologisme. Et dans une émission qui décrypte les nouveaux termes qui agitent notre société, les néologismes, eh bien on aime ça.
Et alors, quelle est la définition de cette arabisogynie selon celle qui en est à l'origine, Cyril ?
Eh bien je vais vous citer, puisque vous êtes là. La misogynie caractérisée contre les femmes identifiées comme arabes repose sur des stéréotypes incarnés par deux figures caricaturales et mises en opposition, la beurette et la voilée. Ce terme, il vous vient de misogynoir, encore un néologisme, tiens, celui-ci nous vient de la féministe queer noire Moya Bailey. Misogynoir qu'elle définit comme une forme particulière de haine dirigée contre les femmes noires dans la culture américaine, surtout dans la culture populaire et le hip-hop. En fait, ce que recouvre l'arabisogynie et le misogynoir, c'est l'intersectionnalité, Manon a commencé à en parler, une notion forgée en 1989 par la juriste Kimberlé Crenshaw. L'intersectionnalité, c'est comment le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'oppression se renforcent mutuellement. Alors, qu'est-ce que l'arabisogynie doit à l'intersectionnalité ? Quelles sont les différences ? Comment s'entretient cette arabisogynie ? Comment y remédier ?
Eh bien, réponse dans le replay de l'émission Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël avec Cyril Lacarrière. Tous les deux reviennent à 16h sur Inter. Il sera question de transvestigation avec leur invité Lexi, autrice et militante des droits LGBT+. 5h22 sur Inter. Dans un instant, Charline Vanhoenacker nous dévoile les dessous du Vendée Globe. Il sera notamment question de céleri rémoulade. Mais tout de suite, un idéal de vie dépeint par un duo de frères stéphanois. Il s'appelle Terre Noire. C'est le nom du quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi. Et ils chantent « Vivre sobrement ».
L'amour a changé mes idées. J'ai reconsidéré le sens de tout ce que je fais. J'adhère aux idées de mon amour. En art je le ferai encore, mais par amour.
J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant. Vivre sobrement. Méthode, retoucher mes dessins.
Tête penchée sur le monde comme un réverbère éteint. Corde à sauter pour que mon cœur tienne. Un dernier album pour mon quartier. Dis Siri,
c'est quoi mon destin? J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant, vivre sobrement.
Terre Noire n'est pas révolutionnaire, c'est des chansons populaires qui rendent fier le quartier. J'ai pas perdu, je n'ai pas perdu mon frère, on s'est même amélioré. Appris le métier.
J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant. Vivre sobrement, J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi, libérer des rêves d'enfant. Vivre sobrement.
Vivre sobrement de Terre Noire, extrait de leur prochain album Protégé qui sort dans une semaine. Ils sont aussi en concert le 3 avril prochain à Beauvais et le 19 septembre à Metz.
France Inter.
Et à 5h25, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker tous les matins dans le 7-10. Elle explose les faits. Et mercredi, vous vous en souvenez peut-être, on a pu voir les images sublimes de l'arrivée de Charlie Dalin au Sable d'Olonne. Et pour cause, c'était l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe, mis en scène par son équipe.
Quel spectacle cette arrivée ! Parade nautique, musique, feu d'artifice. Pendant 3 mois, Charlie Dalin et Johan Richomme n'ont croisé personne, à part 2 otaries. Et ils débarquent direct dans un parc d'attractions. C'est devenu le puits du fou, d'après un élu de la région. Alors, c'est pas du Thomas Joly. Sinon, on aurait vu Philippe Catherine nu sur un dauphin.
C'est vrai.
Ça aurait été bien.
Ouais, France Info nous donne tous les détails de la mise en scène à laquelle les navigateurs participent. On apprend que chaque marin prend le départ avec une tenue neuve qu'il laisse en fond de cale sous plastique, une tenue aux couleurs du sponsor. Donc c'est l'équivalent du smoking à Cannes, sauf qu'il y a écrit massif en fluo. Voilà. Mais il y a un protocole à 24 heures de l'arrivée. Charlie Dalin a reçu des instructions. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de batailler en mer et on leur envoie un mail avec une to-do list, genre le nombre de fumigènes à allumer. Alors bon, moi je me rends pas compte évidemment, j'ai jamais fait le Vendée Globe. Enfin, j'ai fait bon, la traversée du discours de François Bayrou en solitaire. C'est éprouvant, j'ai failli abandonner 3 fois. Mon sponsor c'est Doliprane. Vous voyez, hier si Bayrou avait achevé son discours à la tribune en écartant les bras avec des fumigènes, là ça aurait eu de la gueule. Donc pour les marins, la veille de l'arrivée, moment crucial, ils reçoivent une liste de questions dont « Quelle musique veux-tu pour ton arrivée ?» On dirait ma mère qui m'appelle 1 minute avant l'antenne. « Tu veux manger quoi dimanche ? Ton père a pensé à des chicots au gratin ?» Ça, c'est pour les marins belges, essentiellement. Alors, j'imagine les échanges entre les skippers et leurs équipes après 3 mois en mer. « Tu veux quoi comme musique ?» Une douche. « Et comme repas ?» Une couette. « Et quelle couleur pour la couette ?» Alors, pendant des mois, t'as été seul face aux éléments, parfois au péril de ta vie, et d'un coup, on t'annonce que l'urgence, c'est de savoir si à l'arrivée, tu préfères écouter Vianney ou Obispo, et si tu aimes le céleri rémoulade. Imaginez que Charlie Dalin, il a dit « Non ! Pas de céleri !» Et alors, hop, il fait demi-tour. Cap sur les Açores. Et là, il recroise tous les autres concurrents. Il fait « N'y allez pas ! C'est céleri rémoulade à l'arrivée !» Et puis les autres, t'as des infos sur la musique, parce que j'ai pas traversé 3 dépressions tropicales pour finir sur du Obispo. Tu vois. Et puis après, il faut saluer. Il faut saluer tout le monde d'un coup. Alors que t'as pas pris une douche depuis 60 jours. Alors ça n'arrive qu'aux gagnants du Vendée Globe. Et à Michel Houellebecq au salon du livre. Alors, autre détail protocolaire à l'arrivée, beaucoup de concurrents sont rasés de près. Vous avez vu, à la fin, on ne sait plus s'ils reviennent du Vendée Globe ou d'un dîner chez Laurent Wauquiez. Mm. Et bien, ah oui, c'est la Vendée. Hein. Je veux dire, si tu débarques par bateau et qu'en plus t'es barbu, ah, flippe. Hein. Alors, hier, Bayrou s'est rasé de près aussi, costume impec. Hein. Ouais, Richard Gire, quoi. C'est là qu'on se dit, coupé de toute l'actu pendant 3 mois. Oh, oui. Bonne excuse pour ne pas se rappeler du nom des ministres, d'ailleurs. Je ne sais pas, j'étais au Cap Horn. Mais Charlie Dalin a passé la ligne d'arrivée vers 8h15 hier. Et s'il a allumé la radio, là, paf, pile la chronique de Pieraski sur Gaza. Allez. Alors, qu'est-ce que cette arrivée raconte dans le fond ? Bah, qu'après avoir manœuvré seul en mer pendant 3 mois, une fois sur Terre, c'est toi qui te fais manœuvrer. Alors, je les félicite et je leur souhaite bon retour à la réalité. Bonne cérémonie rémoulade.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 9h45 et demain, samedi, à 19h20 pour Bistroscopie avec l'ancienne députée européenne Eva Joly. Dans une poignée de secondes, le journal.
1885, Louis Pasteur et la vaccination contre la rage.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
Louis Pasteur pratique sa première vaccination sur un humain, le petit Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé.
Il se dit que vous avez un remède contre la rage. S'il vous plaît, il faut sauver mon fils.
Un succès qui va contribuer à la gloire du grand savant français.
Autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
Demain sur France Inter, Joseph Stiglitz dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Lundi, Donald Trump s'installera dans le bureau ovale. Avec quelles conséquences pour l'économie et quelles menaces pour la démocratie ? le prix Nobel Joseph Stiglitz est mon invité.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec FreePro et ses solutions cloud, cyber et réseau. FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
Il est 5h29 sur France Inter. Mais qui vient de me rejoindre dans ce studio ? C'est
mais
Ali
oui,
Badou.
Tiens, c'est moi.
Vous ici.
Je
bonjour
suis là
Ali.
Ce 17 janvier avec au programme de la matinale aujourd'hui les invités à 6h20. Marion, vous recevrez Ariane Lavrieux qui est journaliste d'investigation et qui est accusée d'appropriation et divulgation d'un secret de la défense nationale. C'est l'expression consacrée. Elle sera auditionnée ce matin à 9h30 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle répondra donc à vos questions. À 8h moins le quart, le débat éco du vendredi. Il sera question de retraite. Quelle voie de réforme est possible ? On entendra le débat entre Dominique Seux et Thomas Porcher. Et à 8h20, dans le grand entretien, nous parlerons du cinéaste David Lynch. Hommage à ce génie décédé hier avec de nombreux invités et avec vos questions, vos souvenirs, vos interrogations sur l'œuvre de cet immense artiste au 01 45 24 7000. Ou sur l'application d'Inter.
A tout à l'heure pour le 6-9, Ali.
A tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal Mathilde Bouquerel. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Les bombes continuent de pleuvoir sur la bande de Gaza.
Malgré l'annonce d'une trêve qui doit prendre effet ce dimanche, les frappes se sont même renforcées. 50 cibles visées hier selon l'armée israélienne, 24 heures donc après l'annonce du cessez-le-feu. Les derniers jours avant cette trêve sont très difficiles à vivre pour la population de la bande de Gaza. Thibault Lefebvre à Jérusalem avec Rami Al-Maghari dans l'enclave de Gaza.
Seulement 20 minutes de joie après le cessez-le-feu mercredi soir. Et puis encore des bombardements. Mohamed s'est endormi en espérant, en rêvant à la trêve. Il a été réveillé en plein sommeil.
Les frappes qui ont visé Deir el-Bala durant la nuit, elles ont été vraiment dévastatrices. Un campement de déplacés a entièrement brûlé. On parle de plus de 20 morts. On nous dit que la trêve entrera en vigueur dimanche à 12h15. Mais en attendant, le sang continue de couler.
L'attente d'une pause dans les combats est insupportable depuis la fin du précédent cessez-le-feu il y a près de 14 mois. Jamil a appris à vivre avec le bruit incessant des drones de surveillance et puis la peur de mourir. Il en veut évidemment à l'ennemi israélien, mais pas seulement.
Le cessez-le-feu aurait dû prendre effet immédiatement. Pourquoi avoir donné aux Israéliens 4 jours supplémentaires ? Pour leur permettre de tuer davantage de gens ? Ils n'en ont pas assez tué comme ça ? C'est injuste. Mais c'est de la faute des négociateurs arabes qui sont faibles et qui resteront faibles toute leur vie.
Le Qatar et l'Égypte accusés par Jamil de ne pas avoir assez aidé les Palestiniens et de privilégier leurs intérêts sur la solidarité entre nations arabes.
Mais avant de pouvoir vraiment conclure cette trêve, le gouvernement de Benjamin Netanyahou va se réunir aujourd'hui pour voter cet accord. Selon le Premier ministre israélien, le Hamas a tenté de revenir sur certains points de l'accord pour, dit-il, extorquer des concessions de dernière minute. Et sur l'autre front de cette guerre, au Proche-Orient, le Liban, le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël tient toujours. Il y a une semaine, le pays s'est choisi un nouveau président, Joseph Aoun, après 2 ans de vacances du pouvoir. Un chef d'État qu'Emmanuel Macron va rencontrer. Le président français est en visite à Beyrouth aujourd'hui.
En France, un objectif, trouver un accord sur la réforme des retraites.
Le Premier ministre François Bayrou lance une série de concertations sur le sujet aujourd'hui, ce qu'il appelle un conclave. Les partenaires sociaux ont rendez-vous ce matin à 11h au ministère du Travail.
Et puis le podium du Vendée Globe est complet ?
Avec l'arrivée du troisième, Sébastien Simon, cette nuit, le Vendéen a donc bouclé son tour du monde à la voile en solitaire en 67 jours, un peu plus de 2 jours après le premier, Charlie Dalin. On n'attendait pas le Vendéen de 34 ans à un tel niveau de la compétition, Jérôme Val.
Le tour du monde en solitaire a bercé l'enfance de Sébastien Simon, lui qui n'a pas raté un seul départ ou une seule arrivée du Vendée Globe depuis 1996. Il avait 6 ans à peine à l'époque, mais des étoiles plein les yeux quand il croisait sur les pontons Jean Le Cam ou Loïc Perron. Il a fait ses premières armes sur le voilier de la famille amarré au sable d'Olonne, puis en parallèle de ses études d'ingénieur, il s'est lancé à son tour dans une carrière de marin en 2014, avec des succès mais aussi de cruelles désillusions. Son premier Vendée Globe, il y a 4 ans, stoppé prématurément au Cap de Bonne-Espérance, espérance. Son grave accident fin 2023 lors d'une transat, traumatisme crânien et fracture d'une cervicale en pleine mer. Et puis son nouveau projet de Vendée Globe qui tarde à voir le jour. Des péripéties qui n'empêchent pas Sébastien Simon de s'aligner au départ de cette 10e édition qu'il anime avec brio, malgré un nouveau coup dur, la casse de son foil droit dans l'océan Indien. Le sablé rejoint donc sa ville après une course pleine de panache. Et peut-être après cet exploit, aura-t-il à son tour donné envie ce matin à des enfants d'être un jour au départ du Vendée Globe.
Et puis la mort du cinéaste David Lynch hier soir à 78 ans. On lui doit des classiques comme Mulholland Drive, Blue Velvet ou encore Dune en 1984. Il a aussi réalisé la mythique série Twin Peaks dans les années 90.
C'était le journal de Mathilde Bouquerel. Bonne journée Mathilde, allez vite vous mettre au chaud. Il va encore frais ce vendredi. Côté ciel, un classique, gris au nord, soleil au sud, sur les Pyrénées orientales, quelques ondées et de la neige au-dessus de 1000 mètres. Sur la Corse, nuages, puis retour des averses dans la moitié nord. Attention ce matin au brouillard givrant. Le ciel est largement gris, avec parfois des percées du soleil dans le nord-est et sur Rennes et Nantes. Au sud, soleil largement dominant et le thermomètre affiche des températures, je le disais, inférieures au normal, avec des gelées généralisées au petit matin, en ce moment donc, et des maximales en baisse sur le nord, plus de douceur sur le sud. Prévoyez 1 à Dijon, 2 à Lyon et Strasbourg, 3 à Tours et Lille, 4 à Paris, Nancy et Cherbourg, 5 à Rennes, 6 à Brest et Nantes, 7 à Clermont-Ferrand, 10 à Biarritz, 12 à Marseille, 13 à Perpignan et 15 à Nice.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure d'ouvrir grand vos oreilles pour la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous emmenez dans le rayon musique électronique et vous nous parlez du retour annoncé du groupe Darkside, côté obscur donc.
Mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas brillant. Pour autant, deux nouveaux morceaux de Darkside viennent de paraître et c'est un retour en force, ici avec un dérapage contrôlé. Neuf transmissions d'espace négatif, de séances télépathiques et d'improvisation spectrale. Rien que ça. Voilà comment Darkside présente ce nouvel album, Nothing, qui sortira le 28 février. Alors Darkside, c'est un projet qu'on suit depuis plusieurs années ici sur Inter. C'est un duo devenu un trio composé de Nicolas Jarre, il est chilien-américain, du guitariste new-yorkais Dave Harrington et du batteur Tlacael Esparza, qui est new-yorkais lui aussi. Alors tous les trois jouent de plusieurs instruments qui développent même parfois pour les besoins de leur musique aussi étrange qu'envoûtante. Il y a du surnaturel dans leurs assemblages de sons, tout évolue, se transforme beaucoup. On dirait des mutations, vous l'entendez, il y a une voix qui est arrivée, une autre saturation, vont débarquer un piano bastringue, des sifflements et une basse venue de nulle part.
Groucho Marx, et non pas Groucho Marx, hein, de Darkside, premier extrait de leur nouvel album Nothing, Nothing donc rien.
Et rien, c'est déjà beaucoup, comme disait la chanson de Gainsbourg. Alors plus sérieusement, ce rien est chargé de sens pour le groupe. Nicolas Jarre précise que rien, c'est ce qu'on répond souvent quand on vous demande qu'est-ce qui va pas. Rien, ça veut dire tout le contraire, bien sûr. La voix et le porte-parole du groupe ne fait jamais rien au hasard. Nicolas Jarre a déjà composé au Chili plusieurs pièces en hommage aux victimes de la dictature de Pinochet. Il peut aussi bien composer de la musique ambiante très expérimentale, mais on l'a vu aussi travailler pour The Weeknd ou FK Twigs, donc des choses beaucoup plus pop. Oui. Et puis il a composé des musiques de films, notamment pour Jacques Audiard. Il s'est investi, il voyage beaucoup. Et selon lui, ce rien, c'est peut-être, je cite, une illustration accablante de l'absence de changement dans le monde, l'inaction exaspérante face au changement climatique, l'hypocrisie politique des cycles récurrents de violence à l'encontre des peuples de Palestine, du Soudan et d'ailleurs, fin de citation. Alors le titre qu'on a retenu pour Inter, c'est SNC, c'est pas le début d'un train, hein, mais ça roule très bien, vous allez voir, c'est l'acronyme de Still No Center, il n'y a toujours pas de centre.
Dark Side, Nothing, qui sortira
Nothing.
Le 28...
Rien.
Ouais, c'est pas rien. Ça sortira le 28 février. Merci Mathieu, et on vous retrouve ce soir. Et ça, non plus, ce n'est pas rien, ce soir à 21h pour d'autres nouveautés musicales.
Mais oui Marion, ce soir, il y aura Dark Side, mais d'autres nouveautés. Et puis je vous parlerai d'un disque réalisé avec des sons captés sur un bateau pendant le Vendée Globe.
Génial.
Et puis de studios d'enregistrement mythiques qui viennent de partir en fumée à Los Angeles. Et je remets le son. À ce soir.
À ce soir. 5h41, le premier zoom de cette matinale, et c'est un droit conquis de haute lutte, celui pour les femmes de disposer de leur corps et d'avorter. Pourtant, 50 ans après la promulgation de cette loi Veil, l'IVG reste un sujet extrêmement sensible. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Site internet piraté, locaux vandalisés, vitrines taguées, rendez-vous bloqués. La bataille idéologique est bien loin, Alice, d'être terminée. Des centres qui pratiquent l'avortement sont encore souvent la cible d'actes malveillants.
Oui, comme ici, à Rouen, à l'Institut médical Simone Veil, l'entrée est surveillée par des caméras.
La porte est ouverte, vous pouvez rentrer.
Ce jour-là, personne dans la salle d'attente. Et pour cause, le centre fait l'objet d'une vague de faux rendez-vous.
Et cet après-midi, on en est à 4 rendez-vous déjà annulés.
Pour Marianne Lenné, la fondatrice de l'Institut, pas de doute, il s'agit là d'une action de groupe anti-IVG.
Sur l'affiche, lorsqu'on clique sur notre logiciel en ligne, sur l'historique, on voit qu'il y a plein de rendez-vous qui ont été pris et annulés. Donc là, c'est certain que c'est des anti-IVG.
La médecin appelle l'un des numéros suspects.
Enfin, c'est inadmissible. La demande d'IVG est une urgence. Et ils se retrouvent avec des agendas avec des trous. C'est des femmes qui auraient pu venir et qui finalement ont dû avoir un rendez-vous 2-3 jours plus tard. Donc c'est du temps de médecin, c'est du temps de sage-femme qui est volé en quelque sorte. Et,
Ce n'est pas la première fois que le centre est pris pour cible. L'an dernier, déjà, l'agenda avait été bloqué, le site piraté. Un déferlement d'actes malveillants constaté aussi au planning familial au moment de la constitutionnalisation de l'avortement. Des serrures bloquées, des locaux vandalisés, des vitrines taguées, comme ici à Lille.
Voilà, alors ces deux images sont des photos qui ont été prises le 8 mars 2024.
Véronique Seyé, administratrice du planning familial du Nord.
Le matin, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces inscriptions « Stop IVG »,« IVG égale meurtre », donc sur la vitrine du planning, mais aussi sur le sol. Et il y en avait un peu partout dans la ville.
Cette militante féministe de longue date a vu les pratiques des opposants à l'avortement évoluer.
C'est-à-dire qu'avant, on avait des personnes qui venaient manifester devant le planning ou devant les centres qui pratiquaient des IVG. Il y a même eu une période où ils se sont enchaînés à des tables d'avortement. Et puis après, ils se sont professionnalisés avec des moyens financiers très importants.
Des mouvements qui se professionnalisent et sont particulièrement présents en ligne et sur les réseaux sociaux.
Car Alice, au-delà des attaques matérielles, se joue toujours une autre bataille, celle de l'information sur le droit à avorter.
Oui, aujourd'hui, sur les moteurs de recherche, le site officiel du ministère de la Santé apparaît en bonne position. Mais sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est plus compliqué. Sur Instagram, par exemple, avec le mot-clé IVG, on tombe très vite sur des comptes animés par des militants catholiques conservateurs avec, comme on peut l'entendre, des récits anxiogènes d'avortement forcé.
Mon mari exige que j'avorte. Il s'est d'ailleurs suicidé quelques années après.
J'ai avorté pour que cette pression cesse. Seulement à présent, je suis prise de regret.
Cet enfant aurait eu 25 ans aujourd'hui.
Adossé à ses comptes, des lignes d'écoute. L'objectif est de dissuader les femmes d'avorter. Face à cet activisme, le planning familial organise la riposte, explique sa présidente, Sarah Durocher.
On s'est rendu compte en fait qu'ils achetaient des noms de domaine. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on se mette dans une logique et d'être assez offensif, qu'on a réfléchi à une liste de domaines qu'on peut acheter, IVG mon choix, ce genre de choses. Donc ça veut dire mais tous les ans, il faut les renouveler, mais c'est une vigilance qu'on doit avoir pour en effet occuper un maximum l'espace et qu'eux n'en prennent pas.
À l'occasion des 50 ans de la loi Veil, les associations craignent une recrudescence des actes malveillants. De leur côté, les groupes anti-IVG se sont donné rendez-vous ce dimanche pour une manifestation à Paris.
Alice Cachaner pour ce reportage sur les 50 ans de la loi Veil. Le combat idéologique continue. On peut le réécouter, ce Zoom, en podcast sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h45, l'heure de contacter notre premier invité, notre invité déjà debout qui travaille pour la réserve naturelle d'Arjusan. C'est comme ça qu'on dit, Paul Laguré?
Allô, oui, bonjour.
Comment on dit? On dit Arjusan?
Arjusanx, oui.
Arjusanx oui, dans, voilà. Dans le sud-ouest, dans les Landes. Vous êtes garde naturaliste, vous allez nous expliquer ce que c'est. Pourquoi vous êtes déjà debout à cette heure-ci?
Alors là, nous, on se lève de bonne heure ce matin pour aller faire des visites guidées. Donc on amène des personnes pour aller voir le lever des grues. Donc on est en
les grues, les oiseaux. Hein.
Voilà, les grues cendrées, les oiseaux, oui, exactement. Donc on se trouve sur un observatoire à 15 mètres de haut. Et là, donc, on arrive à la nuit et elle se réveille tout doucement le matin. Et aux premières lueurs du jour, les oiseaux décollent pour aller sur leur zone de gagnage, pour aller s'alimenter toute la journée.
C'est un oiseau emblématique de la région, la grue?
Oui, c'est un oiseau emblématique. Donc sur la réserve actuellement, on en a 10 000. Donc c'est un petit hivernage pour cette saison. D'habitude, on tourne entre 20 à 25 000 oiseaux en hivernage, donc surtout l'hiver. Et là, il y en a un peu moins cette année. Il a fait un peu moins froid sur le début de la saison. Elles sont un peu moins descendues. Voilà. Mmh. C'est un hiver un peu calme au niveau des oiseaux migrateurs.
Et donc, elles se lèvent avec le lever du jour. Qu'est-ce qu'elles vont faire à ce moment-là? Elles vont manger, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, elles vont sur les grandes zones agricoles qu'on a sur le nord du département. On a une zone agricole qui fait 10 000 hectares et donc elles vont aller s'alimenter donc essentiellement de résidus de récolte, donc de grains de maïs. Donc, elles mangent entre 200 à 250 grammes de maïs par jour et par individu.
Alors, comment ça se passe, ces visites guidées dont vous parlez? Ça commence à 7h30?
Oui, ça commence à... On a rendez-vous à 7h30, donc on se retrouve sur une maison du site, une maison d'accueil où on accueille les personnes. Donc, on leur fait une présentation de l'histoire du site, donc pour contextualiser le lieu où on se trouve et où est-ce qu'on va aller. Donc après, on leur explique tout ce qui est la réserve naturelle. Et ensuite, on prend les véhicules de service. On fait à peu près 5-6 kilomètres pour accéder à la tour. On fait une petite centaine de marches, on accède à la tour et on observe ces oiseaux.
Mmh. Et c'est des petits groupes, hein. C'est 17 personnes, pas plus?
Non, pas plus. Donc, on a plusieurs choix. Donc, c'est soit les visites à la tour, soit les photos aux observatoires. Donc, les photos, c'est que une fois par semaine. C'est que le mercredi matin et un dimanche matin tous les 15 jours.
Alors, il faut préciser que pour ceux qui sont plutôt du soir, il y a aussi des animations du même genre au coucher du soleil. Donc, si vous n'avez pas envie de vous lever trop tôt. Racontez-nous l'histoire de cette réserve naturelle. En fait, paradoxalement, elle a été créée par l'homme.
Oui, donc ça a été une ancienne mine de lignite. Donc, de 1958 à 1992, il y avait une exploitation de lignite. Donc le lignite, c'est comme du charbon, c'est du bois fossilisé. Donc il était enfoui entre 25 et 30 mètres de profondeur. Et donc EDF, l'entreprise qui a exploité le lignite, a ouvert des zones. Donc ça a donné naissance à des plans d'eau. Et ces plans d'eau-là, toute l'eau a attiré les espèces, toutes les espèces, les insectes, les batraciens et les oiseaux notamment, qui sont attirés par l'eau.
Et c'est une réserve naturelle depuis pas si longtemps, parce que ça date
de 2022. Oui, depuis 2022, ouais, 2022, le classement.
À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça change, ce statut ?
Donc, mais en gros, c'est une reconnaissance nationale. Donc, c'est le plus haut statut de protection que peut avoir une réserve. Donc, on a des enjeux forts à conserver pour conserver toute la biodiversité du site, quoi.
Et vous travaillez dans cette réserve, alors qu'il n'était pas une réserve au début, quand vous avez commencé. Vous y travaillez depuis 8 ans, ça veut dire depuis toujours, en fait, depuis votre sortie des études.
C'est ça, depuis la sortie de mes études. Donc j'ai eu la chance d'être employé en emploi d'avenir et après d'être titularisé après ces 3 ans. Et donc moi, quand je suis rentré, c'était il y a 8 ans, donc c'était en réserve nationale de chasse faune sauvage. Et après, ça a été classé en 2022 en réserve nationale naturelle.
Et c'est vraiment une passion pour vous de travailler dans cette réserve ?
Ah ben, quand vous vous levez le matin comme cette semaine, que c'est des gelées blanches, que c'est des instants uniques, quoi. Ça fait rêver, quoi. Quand on aime la nature, les oiseaux, savoir comment ça fonctionne, c'est passionnant.
C'est un travail de rêve. Et à part le lever des grues, alors vous faites quoi ?
Alors, à part le lever des grues, donc on fait beaucoup d'animations, comme je vous l'ai dit, grand public, scolaire, donc sensibilisation du public. Après, chaque garde, donc on est 8 gardes sur la structure, on a un peu nos spécialités. Moi, c'est plutôt sur les oiseaux, tout ce qui est ornitho. Après, on a des suivis, on fait de la surveillance, on fait de la régulation d'espèces nuisibles. C'est assez varié, de l'entretien du site, de la réouverture de milieux. Voilà, c'est assez varié.
Eh bien, merci d'avoir partagé votre passion avec nous, Paul Laguret, garde naturaliste de la réserve d'Arjusanx, donc dans les Landes. Profitez bien de ce nouveau réveil des grues. Merci de nous avoir répondu sur Inter. Si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez participer au Déjà Debout, vous pouvez nous écrire le 5-7@radiofrance.com. 5h51, la réponse à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, vous avez du réseau ?
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 9 ans et j'aimerais bien savoir si un pays pourrait complètement couper le réseau internet dans d'autres pays. Merci, au revoir.
Merci pour ta question, Arthur. Est-ce qu'un pays pourrait complètement couper le réseau internet d'un autre pays ? Nicolas Arpagian, vous êtes expert en cybersécurité. Que répondez-vous à
Alors,
Arthur ?
Bonjour Arthur. Alors, très bonne question. Il faut déjà garder à l'esprit qu'Internet n'est pas un gaz. Internet va passer par des équipements, des infrastructures. C'est l'essentiel des câbles sous-marins, des tuyaux et des satellites. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un venait à couper physiquement ces câbles, tous ceux qui relient aussi bien les pays, mais qui passent éventuellement également sous la mer, eh bien, mécaniquement, il y aurait une coupure du réseau parce qu'il n'y aurait plus cette continuité technique qui assure la connexion des systèmes. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a quelques années, une paysanne en Arménie avait été, d'un coup de pioche, avait isolé son pays pendant quelques temps d'Internet, parce qu'en fait, il y avait un câble qui passait à un endroit. Alors depuis, on a fait ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire de multiplier les connexions.
Ah oui, parce que j'allais dire, ils n'ont pas des... Un peu comme dans les hôpitaux, il y a des générateurs, au cas où il y a une panne d'électricité, pour que
alors,
ça continue.
Là,
les pays, ils n'ont pas plusieurs
non,
câbles, alors, il y en a un qui saute.
Il y en a, simplement, il y a bien des... ils sont quand même, ils restent en nombre limité au regard de la consommation. C'est pour ça d'ailleurs que le positionnement des câbles sous-marins est quelque chose de stratégique et surveillé par les autorités de l'État. Pourquoi ? Parce que ça assure l'autonomie en termes de communication et donc ça contribue à la sécurité nationale et que, évidemment, sinon des systèmes satellitaires peuvent également être parasités. On a vu des cas où des petits satellites viennent polluer la connexion, voire éventuellement détruire. On a vu des satellites utilisés pour perturber, voire interrompre la connexion sur certaines zones. Donc oui, on peut mécaniquement, physiquement isoler un pays. Par contre, c'est quelque chose qui exige des moyens qui relèvent aujourd'hui d'un État et qui serait, à n'en pas douter, considéré comme un acte de guerre ou en tout cas avec les mêmes considérations que s'il s'agissait de s'introduire sur le territoire d'un pays souverain.
Mais donc ça voudrait dire qu'il faut quand même exactement connaître les bons câbles, les bons satellites et réussir à frapper tout en
exactement.
Même temps.
Exactement.
Hein.
Et d'ailleurs, on a régulièrement des mises en cause de pays dont des prétendus bateaux de pêche traînent à proximité des câbles, soit pour les localiser, soit pour éventuellement essayer d'intercepter les messages en utilisant des technologies d'écoute à partir des câbles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Internet repose sur des infrastructures physiques qui sont principalement des câbles terrestres et sous-marins et des constellations de satellites.
Attention au coup de pioche alors, hein, ce serait dommage de déclencher une guerre en faisant des travaux ou du jardinage. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Cronier, on peut réécouter cette chronique ce soir à partir de 20h05.
France Inter, le 5-6.
Et c'est l'heure de Café Philo avec vous, Patricia Martin, bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Au programme ce matin, un sujet assez peu traité par les philosophes, celui des déchets. Et pourtant, Patricia, il existe bien une philosophie de ce qu'on pourrait appeler une matière disqualifiée.
Oui, je vous l'accorde, Marion, il n'y a pas des masses de philosophes hein, à s'y être intéressés. Oui. Et pourtant, comme l'écrivait le sociologue Marcel Mauss, il y a de ça quasiment 100 ans, une boîte, je le cite, hein, une boîte de conserve caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux. Mmh. Après utilisation, l'objet dégoûte le plus souvent, non seulement ça devient un rebut, mais parfois un rebut dangereux qu'il est nécessaire d'enfouir. Les quantités de déchets dont il faut nous débarrasser sont devenues mais vertigineuses, ouais. Rien que pour le plastique. D'ici à 2060, tenez-vous bien, on va passer à plus de 1000 millions de tonnes par an, et ce à l'échelle mondiale. Pour illustrer mes propos, un reportage qui a été diffusé sur France 3 Auvergne, c'était l'année dernière.
Ce pourrait être un paysage de collines, mais les formes trahissent l'influence de l'homme. Les pyramides sont faites de déchets. Actuellement, l'emprise du centre d'enfouissement de la Tienne est d'une cinquantaine d'hectares. On y traite les ordures ménagères de quelque 350 000 personnes qui résident entre la Bresse et la banlieue lyonnaise. Le directeur et le président du site ont accepté de nous accompagner au pied des montagnes artificielles.
On va s'arrêter là, ouais, c'est bien.
Puis on
là.
Va descendre.
En 40 ans, presque 10 casiers de ce type ont déjà été remplis. Des surfaces de 200 mètres sur 100. Les ordures y sont enfermées dans des alvéoles étanches, des piscines faites d'argile, de bâches de protection et de gravier. Mais l'enfouissement n'est pas sans risque. Il faut récupérer les jus toxiques et le biogaz. Et puis, c'est un legs hasardeux pour l'avenir.
On ne peut pas continuer à défricher, on ne peut pas continuer à empiler des déchets qui vont rester là pour les générations futures. Il faut absolument que l'on continue le tri, la valorisation.
À l'échéance 2028, les derniers résidus ménagers devraient être utilisés comme combustible pour une chaufferie. La terre ne servira alors plus de couverture à la nature humaine.
Et la leçon de tout ça, c'est qu'il faudra bien apprendre à vivre autrement, ne nous en déplaise.
On va y travailler avec vous, notamment, et Claire Larocque, qui sera votre invitée dans l'heure philo ce soir vers 20h10. Patricia, elle publie un essai intitulé « Philosophie du déchet » aux Presses universitaires de France. Il y aura aussi Jeanne Guyen, auteur d'un livre sur le consumérisme à travers ses objets, qui est lui publié aux éditions Divergence. Ça sera ce soir vers 20h10.
À ce soir, ma chère Marion.
À ce soir.
France Inter présente...
Il y a 50 ans, Simone Veil a changé la vie de tous les Français.
Les Odyssées.
Le podcast d'aventure pour les 8-12 ans.
L'Or Grand Besançon.
Le 17 janvier 1975, la loi Veil relative à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est votée au Parlement. Depuis ce jour, chaque femme peut mettre un terme à une grossesse non désirée. Le combat pour ce droit fondamental, j'ai une très grande envie de vous le raconter.
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Bienvenue sur France Inter, 5h58.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Il fait frais aujourd'hui, Sébastien Léas.
Les températures minimales sont de nouveau négatives sur la plupart des régions, descendant entre moins 6 et 0 degrés. Le ciel sera encore bien partagé aujourd'hui. En montagne, autour de la Méditerranée et de la Vendée à la Gironde jusqu'au midi toulousain et à l'Auvergne, le soleil brillera généreusement dès ce matin. En Corse, le ciel deviendra progressivement plus changeant, mais les éclaircies seront encore nettes. Quelques nuages traîneront aussi sur le Roussillon ce matin. Entre le Gers et les Landes, sur la Bretagne et entre la Loire-Atlantique et le Cotentin, il faudra attendre la dissipation des grisailles matinales pour profiter d'un temps ensoleillé. Le ciel va aussi se dégager le long des frontières nord, mais sur le reste du pays, les nuages bas resteront imposants quasiment toute la journée.
Sébastien Léas de Météo France, et revoilà Ali Badou pour démarrer ce 6-9 à
mes
côtés.
Le 17 janvier 2025.
Et au programme alors ce matin?
Commence avec au programme ce vendredi à 6h20. Votre invité sera Ariane Lavrieux, qui est journaliste d'investigation et qui est auditionnée ce matin à 9h30 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle viendra répondre à vos questions à 8h moins le quart, le débat éco, et à 8h20 dans le grand entretien, nous parlerons, Marion, de David Lynch, hommage à ce génie décédé hier soir à l'âge de 78 ans. Voilà pour le programme.
Bon réveil à l'écoute de France Inter, il est 6h.